CEO Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, co-animée par Alain Marty et Sylvain Langelier, en partenariat avec Inextenso Finance.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEO Radio. Vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte X CEO Radio-du-Bas TV. Alors aujourd'hui, nous recevons avec un immense plaisir Catherine Coupé et Jacques-Yves Arsquette, les cofondateurs et coprésidents de OpenIt. Bonjour Catherine, bonjour Jacques-Yves.
Bonjour Sylvain.
Alors, on va commencer par vous, Catherine. Vous êtes diplômée de l'IAE de Lille. Vous avez plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des titres restaurants. Vous m'interrompez si je me trompe. Vous avez notamment rejoint en 1988 le groupe Up, qui était, je crois, le groupe chèque déjeuner. Et vous allez très vite évoluer. Vous allez évoluer vers des fonctions de direction jusqu'à en devenir la présidente directrice générale en 2014. Et un groupe qui était entre-temps devenu un groupe international.
C'est exact.
Bon, jusqu'ici, j'ai tout bon. Quant à vous, Jacques-Yves, vous êtes titulaire d'une MIAGE. Alors voilà, j'ai découvert ce qu'était une MIAGE. C'est une maîtrise en informatique appliquée à la gestion des entreprises. En 1996, vous fondez la société, alors dites-moi si je prononce bien, Info.db.
C'est exactement ça, Info.db, oui.
D'accord, donc qui édite, elle, des logiciels à destination des collectivités locales, c'est ça ?
Oui, on était sur l'action sociale des départements, donc une verticale.
Une verticale.
Sur laquelle on a œuvré pendant quelques années.
D'accord, en 2006, vous allez revendre votre entreprise, tiens, c'est étonnant, au groupe Up. Vous allez dans le même temps intégrer ce groupe. Vous serez d'abord directeur général pour le marché des programmes publics et sociaux. Et puis plus tard, vous êtes nommé directeur général Up France. Alors jusqu'ici, est-ce que j'ai tout bon sur le parcours ?
C'est parfait, Sylvain.
Très bien. Alors tous deux, donc, vous avez navigué pendant de nombreuses années sur le marché des titres restaurants. Et vous allez acquérir évidemment une grande expertise. Et puis surtout, vous allez nouer des liens, des relations de confiance avec différentes partie prenante de ces secteurs d'activité. Vous pouvez peut-être nous rappeler un peu lesquels à cette époque-là. Il y a quoi ? Il y a les instances chargées de la régulation
ce... Oui, beaucoup les pouvoirs publics, puisque c'est un domaine qui est réglementé, même si il y a beaucoup d'innovations à apporter, et c'est ce que nous avons fait. Mais c'est un domaine qui est assez réglementé, et on peut apporter de l'innovation tout en encadrant, parce que il y a une exonération, il y a une politique sociale derrière ce titre restaurant, et donc il faut être très respectueux.
Très respectueux. Vous allez aussi nouer de très très bons contacts avec les professionnels de la restauration, pardon.
Oui, en particulier l'Union des métiers de l'industrie hôtelière, donc l'UMI, qui est le principal représentant des restaurateurs, si on veut faire simple, et qui est effectivement un interlocuteur très précieux, parce que ça donne aussi la parole aux commerçants, qui est souvent une partie prenante oubliée des titres restaurants.
Tout à fait.
Puisque les titres restaurants sont vendus aux employeurs, mais finalement, les commerçants sont partie prenante, parce que c'est chez ces commerçants qu'on dépense ces titres restaurants.
D'accord. Alors vous, Jacques-Yves, notamment, vous êtes aussi président, vous avez été président de l'APETR, comment on prononce exactement ?
Oui, c'est l'APETR, c'est-à-dire c'était l'Association professionnelle des émetteurs de titres restaurants, qui était en fait une chambre professionnelle qui permettait de mettre en commun les problématiques du moment avec l'ensemble des émetteurs de la place à l'époque.
D'accord. Donc si je synthétise, on va dire quoi ? On va dire que vous, Catherine, vous adorez le business development, le marketing, la gouvernance des organisations, c'est ça un peu votre...
Oui, c'est un peu mon histoire, c'est un peu ma formation, mon appétence naturelle qui va plutôt vers le marketing, la compréhension du marché, la volonté d'essayer de produire ou d'offrir quelque chose qui réponde à des vraies problématiques. Et ces problématiques, elles peuvent évoluer dans le temps. Et Jacques-Yves va apporter aussi toute la technologie que moi, je n'ai pas.
Oui, c'est ça. Quand on parle de Jacques-Yves, on parle surtout d'excellence opérationnelle orientée client, c'est ça ?
Oui, la passion de la qualité du service au client, qui est une composante qui est de plus en plus aiguë, en particulier dans un monde digital, puisque la raréfaction des points de contact humains qu'on a avec quelqu'un doivent être excellents, puisque tout est en réponse digitale. Donc les rares fois où on a affaire à quelqu'un, d'incarner, il faut qu'on ait un service excellentissime, parce que c'est de ça dont on se rappelle, et c'est ce qui fait la réputation d'une boutique.
D'accord, ce qui signifie en clair que vous êtes parfaitement complémentaire au bureau. Tout mais à également fait. À la maison. ça, on arrive à décrocher
Il faut quelques règles. Faut quelques règles. Et ça, ce sont les enfants, souvent, qui nous les rappellent. Et il faut quelques règles aussi de confiance, parce que Jacques-Yves et moi avons dirigé des entreprises, seuls ou avec d'autres. Et c'est vrai qu'il faut trouver la complémentarité et justement trouver ce supplément d'âme de la complémentarité qu'on peut avoir dans nos parcours qui ont été en partie communs et pour une autre partie différente.
En partie différente. Et puis, sur ce parcours qui était essentiellement un parcours de salarié, vous allez décider un jour de dire adieu au confort du salariat, puis vous allez créer votre start-up. On est en 2020. Cette start-up s'appelle OpenIt. Alors, déjà, première question, comment on décide de franchir le pas? Comment on décide de devenir entrepreneur quand on a été salarié comme vous avant? C'est quoi le moteur?
C'est une espèce de retour aux sources. On arrive à un âge où, on va dire, les mages retours sont commencés, c'est-à-dire qu'on est plutôt en fin de parcours. Et je pense que si on veut cristalliser l'expérience avec une forme de liberté, la taille la plus minime possible est le vrai espace de liberté. Parce que dans les grands groupes, c'est intéressant, il y a les moyens. Mais il y a aussi un carcan, une vitesse d'exécution qui n'est pas satisfaisante sur le fond. Quoi.
D'accord. C'est quoi? C'est une envie de revenir aux sources aussi, aux sources de la motivation?
Je pense aussi que ce n'est pas un hasard si la start-up que nous avons créée, elle est une autre manière de faire du titre restaurant, qui était quand même notre histoire à Jacques-Yves et à moi, en partie en tout cas pour Jacques-Yves. Mais c'est aussi pour montrer que... On peut avoir de l'expérience et en même temps donner des ailes, c'est des racines et des ailes à quelque chose qui n'a pas bougé depuis 60 ans. Et ça,
c'est un vrai moteur.
Un vrai moteur.
Allez, on en parle justement. Donc, cette start-up créée en 2020, elle s'appelle OpenIt. C'est quoi OpenIt?
Alors, c'est la manière la plus simple de faire du titre restaurant aujourd'hui. Puisque nous sommes affranchis des problématiques de la carte spécialisée, dédiée au titre restaurant, qui pose plein de problèmes d'acceptation. Et nous nous sommes affranchis également, puisque nous n'avions plus de support, nous avons enjambé ce support, on s'est affranchi de l'épargne mensuelle que le salarié fait à partir de son salaire pour mettre sur un compte prépayé qui va servir à payer ses déjeuners. Nous, notre parti pris, c'est de dire on n'a pas besoin d'épargner tous les mois pour acheter à déjeuner tous les jours. Aujourd'hui, la technologie nous permet de faire des choses que nous ne pouvions pas avant. Alors, puisqu'on a accompagné cette transformation du titre restaurant, allons encore plus loin.
D'accord, mais alors concrètement, là je me tourne vers Jacques-Yves, pour la partie technique, pardon Catherine, mais concrètement ça fonctionne comment? Alors j'ai plus de cartes, parce que voilà, certains de vos concurrents ont des cartes, qu'on va appeler cartes tickets restaurant, voilà. Vous, votre concept fonctionne comment?
En fait, on considère que le titre restaurant est d'abord un droit, et n'est pas un moyen de paiement. Mm-hmm. Donc le moyen de paiement, on l'a tous dans la poche, c'est sa propre carte bancaire. Donc, vous achetez quelque chose qui relève de l'alimentaire. Et nous, notre job, c'est de capturer le plus vite possible cette dépense pour pouvoir la rembourser et faire en sorte que finalement, cette commodité qui est le moyen de paiement universel puisse servir un peu comme une note de frais, si on veut.
D'accord.
Et, c'est-à-dire qu'on rembourse au fil de l'eau. C'est-à-dire qu'on peut avoir quelqu'un qui va pendant les 5 jours de la semaine dans différents endroits. On va systématiquement rembourser le montant de l'achat alimentaire.
D'accord.
Pour finalement consommer son crédit titre.
D'accord. Donc ça veut dire quoi? C'est que je vais avec ma carte bancaire à la boulangerie m'acheter un sandwich, je dépense 4 euros, ces 4 euros, je les dépense, ils me sont débités de mon compte, mais ils sont crédités, ils sont recrédités quand alors?
Exactement. Donc en fait, au moment où vous avez consommé, vous avez acheté votre sandwich, vous avez deux possibilités nous informer de la transaction. Dès que nous avons la transaction, c'est immédiat, c'est rapide, si elle est éligible au titre restaurant, on rembourse immédiatement la part de l'entreprise. Donc, sur le sandwich à 4 euros, la minute qui suit, on a validé la dépense. Et sur le lendemain, vous avez le remboursement des 2 euros si votre entreprise prend la moitié.
Me rembourse 2 euros, voilà. D'accord. Ça coûte combien, votre offre? C'est le nerf de la guerre.
Alors, ça coûte... en fait, ça fait gagner de l'argent aux entreprises parce que...
Ah, ça
facialement,
coûte pas.
Oui, parce que, en fait, facialement, on facture des frais de service qui sont naturels puisque le vrai client, c'est l'employeur. Donc, c'est à lui de prendre en charge ce service-là. Mais notre système fait qu'on est frugal en consommation. C'est-à-dire que ce qui n'est pas consommé, on le restitue à l'employeur.
D'accord.
Donc, en fait, la restitution à laquelle on procède chaque année couvre largement nos frais. Donc, c'est un système qui, en première lecture, peut être surprenant parce qu'on prend des frais là où nos confrères offrent une forme de pseudo-gratuité qui n'en est pas vraiment. Sauf que nous, à la fin du fin, l'employeur, il y gagne parce que nos frais passent largement dans ce qu'on lui restitue.
D'accord. Donc c'est carrément vertueux, votre système. C'est presque vertueux. Vous gagnez de l'argent, l'entrepreneur gagne de l'argent.
Et le commerçant n'est pas...
Pourquoi personne n'y a jamais pensé avant, non ?
Parce que la force de l'habitude, peut-être, le
fait que pour le moment les gens qui font du titre restaurant sont des historiques, que ceux qui sont arrivés sur le marché ont copié un modèle sans savoir finalement les vraies ficelles de ce métier et ont copié ce que des nouveaux sont arrivés, qui ont fait en arrivant. En se disant finalement c'est ça le Graal et en fait peut-être il est temps de se reposer la question de est-ce qu'on peut faire autrement, est-ce qu'on peut faire mieux autrement.
D'accord, parce qu'il y a de la concurrence quand même sur ce secteur d'activité, c'est pas...
Oui, mais...
Il y a des gros.
Ah oui, il y a des gros.
Il y a même des champions français qui font d'ailleurs, il faut reconnaître, un très bon boulot. Les Danred, Sodexo, etc. sont des très belles maisons. Il faut reconnaître que ce sont des gens qui ont très bien marché. Mais je pense qu'on est arrivé au bout d'un modèle. Et c'est un modèle qui est pernicieux parce que finalement, avec cette digitalisation, avec cette carte titre restaurant, on finit par accumuler des sommes folles. Et finalement, on est en train de passer à côté de l'enjeu de pouvoir d'achat. C'est-à-dire que quand vous, à la fin de l'année, vous avez 10% des montants qui sont prépayés, ne sont pas dépensés, ça veut dire qu'à un moment, vous êtes à côté de l'enjeu social.
D'accord. Donc, très beau business model. Justement, ce business model, vous allez avoir 4 ans. Nous sommes en 2024. Il a convaincu plusieurs investisseurs. En 2022, vous avez bouclé un tour de table, l'équivalent d'une série A auprès de fonds d'investissement. Donc aujourd'hui, Open Eat, c'est quoi ? C'est combien de collaborateurs répartis dans combien de sites ? Comment ça fonctionne ?
C'est 35 collaborateurs à peu près. On est une petite équipe sur Paris, surtout sur le marketing et la direction d'entreprise. Tout ce qui est tech est réparti sur l'ensemble du territoire en remote. Et puis, on a un centre de production à Épernay.
D'accord.
On a des compétences là-bas. Mm-hmm. Et un centre externalisé qui prend ce qu'on appelle le support N1, c'est-à-dire du lundi au samedi, les utilisateurs, qui est une entreprise adaptée. On a fait ce choix pour pouvoir tout simplement avoir un service de très haute qualité.
D'accord.
Avec des personnes en situation de handicap, mais ça fonctionne très très bien.
Et nous avons toujours été convaincus que le rôle de l'entreprise aussi, c'était celui de contribuer, enfin un rôle sociétal de toutes les entreprises.
Tout à fait, oui.
Et donc, c'est une manière parmi d'autres. Et on souhaite qu'effectivement, avec le développement d'entreprise, on puisse aller encore plus loin. Mais c'est un peu natif, on va dire, de notre esprit de gouvernance de l'entreprise et de l'entrepreneuriat.
D'accord. Alors, parce que vous parlez de développement, est-ce qu'on peut déjà parler de chiffre d'affaires ou pas ? Ou est-ce que c'est encore trop tôt ? On peut parler de taux de croissance, peut-être ?
Le chiffre d'affaires, c'est effectivement plus.
C'est opérationnel depuis combien de temps réellement ?
En fait, depuis une grosse année. On a travaillé pendant deux ans et demi sur le socle technique, parce qu'on utilise une architecture qui manipule l'argent des employeurs
Absolument.
Et des personnes, des bénéficiaires. Donc, on doit faire quelque chose de très solide. Une fois que ça s'était fait, ce qui, d'ailleurs, a occupé notre investissement personnel, et c'est là qu'on a justifié la levée de fonds pour pouvoir se développer, en fait, on est sur le marché que depuis un peu plus d'un an. Donc, aujourd'hui, on a plusieurs milliers d'utilisateurs tous les jours. Et à peu
Combien d'entreprises clientes ?
À peu près 300 employeurs de toute taille.
D'accord.
On a de la pharmacie avec 5-6 collaborateurs jusqu'à une très grosse mairie, la mairie de Roubaix, qui a 2000 agents. Donc, on a de toutes les tailles.
Et les avenirs, c'est quoi ? C'est les ETI, les grandes entreprises, les...
Oui, ce sont des ETI, des très grosses entreprises, des grands groupes qui nous sollicitent, qui nous ont dans leur radar, qui ont vu qu'il existait quelque chose de nouveau. Il y a des entreprises qui sont assez attirées justement par l'innovation et qui nous sollicitent. Donc on espère bientôt concrétiser ces nouvelles entreprises.
Et qui sont vos interlocuteurs dans ces entreprises ? Ce sont les CFO,
En général, quand on est dans une entreprise de quelques dizaines de personnes, on a un circuit de décision assez simple.
Je pensais aux grandes entreprises.
C'est plutôt les fonctions RH et les fonctions DAF qui sont, comme disait Jacques-Yves tout à l'heure, aussi concernées parce qu'elles se rendent compte qu'il y a un manque à gagner qui ne rend pas service aux salariés. Mais qui est aujourd'hui dont profitent uniquement les émetteurs de titres qui placent l'argent qui n'est pas consommé. Et ça, ils entendent bien ce discours et ils, préfèrent avoir dans leur trésorerie. On a beaucoup d'entreprises ont des problèmes de trésorerie ou en tout cas un regard beaucoup plus précis sur la trésorerie qu'avant. Et tous les manques à gagner sont observés. Et c'est pour ça que les directions financières nous écoutent beaucoup aussi. Et donc, il y a un binôme RH et finance qui est un combo assez favorable pour nous.
D'accord. Alors, vous parlez RH, finance. Et si on parle RSE? Oui. On a parlé d'inclusion à l'instant. RSE, sujet important aussi pour
côté social,
pour planète,
effectivement, mais aussi côté environnemental, puisque finalement, on ne produit rien, puisqu'on ne fabrique pas de cartes en plastique avec des métaux rares, etc. Donc souvent, d'ailleurs, on nous demande, dans par exemple des consultations publiques, comment vous faites pour recycler des cartes? Et moi, on leur dit, on ne fait rien parce qu'on ne produit aucune carte. Alors, en termes de score RSE, c'est imparable. Il y a aussi le côté distributif. Quand vous avez une grosse entreprise qui a énormément d'agences et qu'il faut, pour les entrées-sorties de collaborateurs, commander une carte, par exemple pour 3 mois d'un CDD ou autre chose, c'est une hérésie environnementale. C'est pas possible. Donc c'est vrai que ce système-là touche énormément les RH et les DAF parce que c'est aussi un gain indirect de temps passé à commander ces supports qui ne servent à rien.
Et je crois qu'en plus, vous avez également travaillé sur votre index parité homme-femme, qui est très bon, visiblement.
On est quasi à l'équilibre. Bon. L'équité est presque parfaite. Alors, le parfait n'existe pas, mais en tout cas, on est assez attentif à ça. Et naturellement, les choses se font aussi.
D'accord. Allez, on revient un petit peu à vous deux de manière plus personnelle. Vos rêves de gosse, vous Catherine, c'était quoi? C'était avocate ou généticienne? Le gap est grand et large entre les deux.
Hein? Alors, on me voyait avocate. Et moi, toute une partie, en tout cas, de la fin de mes études, on va dire, de lycée, j'ai fait un bac D à l'époque, et donc j'étais partie pour faire du scientifique. Et la génétique m'avait toujours passionnée, en tout cas inspirée, et finalement, je n'étais ni avocate, ni généticienne.
Non, mais entre les deux, vous avez créé OpenEat, c'est une forme de génétique, et vous défendez votre projet auprès des DAF et des RH. Vous êtes avocate.
Exactement, avec la conviction de l'avocate.
Et vous, Jackie, vous, c'était plutôt écrivain, voire scribe.
Oui, parce que c'est une très bonne situation. Oui, non, j'adore la littérature. J'ai un auteur favori qui est Denis Tillinac, qui est un Corrézien, qui à la fois a une plume extraordinaire et défend un patrimoine de la Corrèze, tout simplement. D'accord. Et c'est tellement un grand plaisir de le lire et essayer modestement, quelques productions d'écrits, d'essayer de prendre un peu sa suite, c'est pas mal. Ouais.
Et allez, pour conclure, en un mot, votre rêve commun, ça serait quoi? C'est quoi? Est-ce que vous l'avez atteint? Est-ce qu'il est encore... C'est quoi?
Professionnellement, je crois qu'on est assez d'accord. Enfin, alors, je parle pour toi, donc tu vois, t'imagines comment on est d'accord. Ce serait de mettre sur orbite cette entreprise, de faire en sorte qu'elle puisse véhiculer aussi des valeurs, des comportements, une forme d'éthique, une forme aussi d'esthétique peut-être de l'entreprise, et de la transmettre à des gens qui seraient beaucoup plus forts que nous.
D'accord. Un mot à ajouter, Catherine? Non?
Oh non,
belle définition, bon rêve.
Ouais, c'est très bien, c'est très bien. Je pense que depuis le début, ce qui nous habite, c'est d'essayer de rendre utile l'expérience que l'on a acquise auparavant pour retrouver un nouveau levier de croissance et de réussite de ce marché, de pérenniser ce marché du titre restaurant, parce que on est à la fin d'un cycle et c'est comme un peu dans tout. Quand un cycle se termine, il faut pouvoir réinventer un suivant. Et en fait, c'est ça notre ambition, simplement, depuis le début.
C'est une très belle ambition. Je vous remercie. Nous vous remercions tous les deux. Fin de ce numéro de CEO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes X et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité.
L'invité de la semaine de CEO Radio, une production B2B Radio en partenariat avec Inextenso Finance.